Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Backstreet, bonsoir tout le monde, bonsoir le public, vous êtes incroyables, merci à vous d'être là, bonsoir et bienvenue sur le plateau de cette émission Backstreet, bonsoir si vous nous regardez en direct sur Twitch, salut le chat, tu es là, tu es avec nous sur le plateau, ça fait plaisir de te retrouver, bonsoir à vous si vous nous regardez en replay sur YouTube, d'ailleurs sur YouTube tout le monde ne le sait pas mais en fait on est en direct sur Twitch le jeudi, enfin bref, venez en direct c'est cool. Et bonsoir aussi si vous nous écoutez en podcast. Chers amis, ce soir dans Backstreet, comme d'habitude, on va parler de politique et on a plein de trucs à se dire. Et avant ça, on va commencer cette émission en beauté, comme d'habitude, avec un before. Le before de Backstreet, c'est l'occasion pour des partenaires de venir faire de la pub. Et quand on n'a pas de partenaire qui vient faire de la pub, et bon, on invite qui on veut. Et cette semaine, on a eu l'immense plaisir d'inviter et de recevoir sur ce plateau Philippe Collin. Bonsoir Philippe Collin.
Bonsoir Jean, bonsoir à toutes et à tous.
Philippe Collin, tu es historien de formation et tu es aujourd'hui producteur sur France Inter. T'es également scénariste de BD.
Oui.
Et tu fais sur France Inter donc une série de podcasts sur des portraits de grandes personnes. Et en ce moment, il y a une semaine, est sorti ta dernière série de podcasts sur une figure et pas n'importe laquelle, Simone de Beauvoir. Je voudrais, on a plein de questions à te poser. On est fan ici de ta série de podcasts.
Merci beaucoup.
On est fan. Tu fais des portraits de grandes personnalités. Mm-hmm. Alors à chaque fois, c'est des séries de podcasts.
Oui.
T'as fait 10 heures sur Philippe Pétain, 9 heures sur Léon Blum, 6 heures sur Jean-Marie Le Pen, encore 8 heures sur Simone de Beauvoir. Ça passionne les gens, ces podcasts. Ça marche très, très bien. T'arriverais à expliquer pourquoi?
Écoute, je suis assez épaté parce qu'on ne pensait pas que ça marcherait aussi bien, aussi vite.
Ah ouais?
Mais pour dire les choses, on est quasiment à 10 millions d'écoutes. En cumul,
wow.
D'accord. Ce qui est assez impressionnant parce qu'on parle de 8 heures, 10 heures, comme tu l'as dit. Donc, alors, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte un appétit de savoir, je pense,
ouais.
Déjà. Ça raconte aussi peut-être le désir de savoir d'où on vient, puisque finalement, faire de l'histoire, c'est une manière de raconter ce qui s'est passé. Nous sommes en 2023, donc 23 ans du 21e siècle, mais en vrai, on vient tous du 20e siècle. Et peut-être qu'on cherche à savoir d'où on vient. Qu'est-ce que ça raconte de nous? Comment ça nous influence? Et il y a aussi, sans doute, la forme du récit qu'on a choisi, qui est à la fois des récits de personnalité, donc on peut se projeter assez facilement dans une personne. Et ensuite, on a mis en place un récit qui se veut, on va dire, populaire. Voilà. Donc je pense que je tiens à ça. Et c'est un récit qui vient mettre en place, évidemment, des idéologies, des traçabilités, d'où on vient, encore une fois. Mais raconter pour le plus grand nombre. Ça veut dire que c'est une parole savante qui est faite à base d'historiens et d'historiennes.
Ouais.
C'est très important pour nous. On donne la parole à des gens qui sont savants, mais on vient l'enrober, on vient lui donner une touch qui permet au plus grand nombre de s'emparer de ce savoir.
Et c'est aussi une histoire de l'époque. De l'époque et de son contexte, parce que tu racontes l'histoire de ces personnages, de ces hommes et de ces femmes, en les remettant dans une époque qui nous permet, pour beaucoup d'entre nous, alors qu'on l'a appris au collège, au lycée, dans les livres, c'était très sympa, mais là, on a les archives audio, on se replonge dans des époques incroyables. Jean-Marie Le Pen, c'est l'histoire de la 4e et de la 5e République.
Absolument.
Philippe Pétain, c'est l'histoire des deux guerres mondiales et de l'entre-deux-guerres, et c'est absolument extraordinaire. Ça aussi, c'est quelque chose qui doit passionner les gens.
Sans doute, et là où tu dis juste, c'est qu'à la différence d'un livre d'histoire, on a le luxe, la chance de l'archive.
Ouais.
Parce qu'elle apporte à la fois, tu as raison, une vérité du temps passé, mais elle apporte des émotions aussi. Mmh. Et c'est extrêmement important, parce qu'un historien, en général, il se prémunit des émotions, et il a bien raison, mais avec la radio, c'est un peu différent. On peut avoir une parole savante portée par un historien, mais tout d'un coup, l'archive vient donner l'humeur d'une époque, vient donner la couleur d'une époque, vient donner l'atmosphère, vient aussi expliquer l'époque. Et c'est vrai que c'est truffé d'archives sonores, ces podcasts, et c'est sans doute une ligne de fabrique. Enfin, c'est une signature, on va dire, voilà.
Je te propose qu'on regarde le trailer ensemble de ton dernier épisode, enfin, de ton dernier podcast sur Simone de Beauvoir. Oui. On en parle juste après.
C'est si triste et que le soir, une femme seule pleure sur ses petits œufs sur le plat. Mais je crois qu'elle est beaucoup plus contente quand elle a un moment pour se recueillir, pour se reprendre après une journée de travail, que si elle est obligée de servir quatre mômes et un mari, et qu'il ne lui laisse même pas le temps presque de manger.
Fille d'une bourgeoisie conservatrice et catholique, née en 1908, Simone de Beauvoir a traversé le XXe siècle comme une entreprise d'émancipation.
Dès le début, j'ai toujours voulu avoir une vie, je dirais, indépendante. C'est-à-dire, d'une part, gagner ma vie moi-même, ce que j'ai fait en passant des examens et en devenant professeur, et ensuite avoir une activité qui vraiment me tienne à cœur, et ça c'était de devenir écrivain, et c'était bien plus important pour moi que toute espèce d'autre option.
D'abord à l'ombre de Jean-Paul Sartre, elle s'est hissée à sa hauteur, puis elle l'a dépassée. Et aujourd'hui, son œuvre résonne dans notre présent. Un destin exceptionnel et parfois complexe.
Voilà, donc c'est à retrouver sur le site de France Inter, sur vos plateformes de podcast préférées aussi, à côté de celui de Baxi. Surtout, n'hésitez pas, mangez-en, c'est bon pour la santé. Je voulais te demander, Philippe Collin, Simone de Beauvoir, pourquoi elle ? Comment t'en es venu à l'envie de parler de Simone de Beauvoir ?
En fait, les choix qu'on fait pour ces personnages, ce sont des choix qui sont liés à ce que nous traversons tous, les uns les autres. Ils sont liés au présent. L'idée de départ, c'est d'éclairer toujours le présent à la lumière du passé. D'accord ?
Okay.
Donc on choisit Léon Blum parce qu'on se dit, tiens, où en est le socialisme aujourd'hui ? Donc d'où ça vient ? Quelle traçabilité on a de la gauche au XXe siècle ? On s'intéresse à Jean-Marie Le Pen parce qu'on se dit, tiens, il y a 90 députés RN à l'Assemblée nationale, d'où viennent-ils ? Quelle est la traçabilité de tout ça ? Et puis, évidemment, il y a un mouvement, il y a une troisième vague féministe qui est là depuis maintenant 4-5 ans, depuis 2017, on va dire, c'est la vague MeToo, bien sûr. D'où ça vient au XXe ? Qu'est-ce que ça raconte au XXe siècle ? Et évidemment, la personne incontournable du siècle dernier, de ce point de vue-là, c'est Simone de Beauvoir. Elle est à l'origine de la deuxième vague du féminisme. Donc, en fait, elle précède ce que nous vivons. Et donc, on s'est dit, tiens, on va essayer de raconter aux auditeurs et aux auditrices du XXIe siècle qu'est-ce qu'elle incarne dans le siècle passé et comment est-ce qu'elle est devenue une personne incontournable du féminisme aujourd'hui mondial, quoi qu'on en dise.
Et le deuxième siècle, le livre de Simone de Beauvoir, est lui-même le fruit d'un itinéraire. Et c'est ce que raconte ce podcast. Comment est-ce que tu le décrirais, cet itinéraire ? Comment est-ce qu'une jeune bourgeoise catholique en arrive à être à l'origine de la deuxième vague du féminisme dans ce pays ? C'est intéressant, ça.
C'est passionnant et c'est ce qui m'a le plus intéressé, Jean. C'est-à-dire que c'est le récit d'une grande évasion. Et il faut être très, très courageux, courageuse et très fort intellectuellement pour y arriver. Pourquoi ? Parce qu'elle part d'un point A, qui est en effet une bourgeoisie réactionnaire catholique rigoriste, ennemie de la République, ses parents détestent la République, et elle va se sortir de là quasiment toute seule. Pour aller, elle va cheminer vers une bourgeoisie, entre guillemets, éclairée, intellectuelle, et finalement, avec une sorte d'idéal bourgeois, entre guillemets, qui est l'accomplissement de soi-même, mais pour tout le monde. Elle décide de réfléchir à ça, elle se dit, voilà, ce qui est intéressant dans la vie, c'est comment est-ce qu'on peut s'accomplir. Elle commence à faire le chemin elle-même. Entre-temps, sur la route, elle rencontre à la fois la Seconde Guerre mondiale et la condition des femmes, parce qu'elle devient féministe. Un long chemin. C'est-à-dire qu'avant 49-47, elle n'est pas vraiment féministe, à vrai dire. Donc elle devient féministe et elle propose au plus grand nombre de suivre son chemin. Et je trouve ça d'un grand courage et d'une... Je trouve ça très admirable, en fait. Parce que, tu sais, quand on te donne un schéma de pensée quand tu es enfant et que tu décides d'y renoncer et de te construire contre, c'est pas facile. Et c'est très, très... Comment te dire ? C'est... Parfois, elle fait un peu peur, parfois, de me voir, parce qu'elle est un peu rude, elle est un peu comme ça, un peu dure sur ses discours. Mais je pense qu'elle a peur elle-même d'être rattrapée par des schémas de pensée du passé, tu vois ? Et ça, je pense que je ne la connaissais pas assez, à vrai dire.
C'est intéressant parce que tous les podcasts nous font découvrir des enfants qui, pour beaucoup, viennent de milieux qui peuvent nous surprendre quand on les connaît peu. Simone de Beauvoir, on l'a dit, bourgeoisie, catholique, réactionnaire. Léon Blum, fan de Maurras quand il était jeune.
De Maurice Barrès.
Maurice Barrès, pardon, excuse-moi. Jean-Marie Le Pen, fils de marin pêcheur, pas partisan de politique, etc. Tu penses que ça peut intéresser aussi des jeunes qui peuvent y voir des miroirs de... Le parcours de vie
Je pense que oui, parce que d'une part, l'enfance, ça parle à tout le monde, évidemment. On a tous une enfance. Et je crois que ces podcasts-là, ils marchent aussi pour ça. C'est que l'auditeur et l'auditrice, ils peuvent se projeter dans ses vies et se dire, tiens, quel chemin j'ai fait, moi, en tant qu'enfant, pour devenir adulte. Est-ce que j'ai adhéré au projet de mes parents ou est-ce que je me suis construit contre ? Est-ce que j'ai des lignes de fracture avec ma famille ? Ou est-ce qu'au contraire, je suis l'héritier d'un legs que je revendique ? Et je crois que dans ces grandes séries, avec ces grands destins, on se dit, en effet, qu'est-ce que moi j'aurais fait à leur place ? Et ça fonctionne pour ça aussi, je pense.
Voilà. Non, je comprends, je suis assez d'accord. Un truc intéressant, tu n'as choisi que des portraits plutôt politiques.
Oui.
C'est un truc de ta part, ça ?
C'était pour venir chez Baxi.
C'était bien joué.
C'était pour être invité à Baxi.
Non,
non, je crois que la politique, elle est omniprésente dans nos vies. Je crois que elle est même plus qu'il y a peut-être 20 ans, quand moi j'avais 20 ans de moins. Il y a des enjeux cruciaux aujourd'hui que nous partageons, notamment autour de l'histoire. Il y a des enjeux politiques très très forts autour de la mémoire historique. Et c'est un goût personnel, c'est-à-dire que depuis que je suis enfant, ça me passionne. Et que je cherche peut-être à travers ces portraits, Jean, à dégager un idéal pour moi. Peut-être qu'il y a quelque chose là qui faudrait percer, mais peut-être que je cherche à mettre en place un idéal républicain auquel je tiens.
D'accord.
Voilà.
Ok, non, c'est intéressant. Alors, parlons de cet idéal républicain, parce que tu le sais sans doute, dans cette émission, j'ai fait le choix éditorial de refuser de recevoir l'extrême droite et les représentants du Rassemblement national sur ce plateau, quand bien même on reçoit des responsables politiques qui font le jeu politique. Ça a fait un buzz non négligeable. Et dans ton épisode sur Jean-Marie Le Pen, tu parles aussi de ça, parce que Jean-Marie Le Pen, sa carrière, son image est totalement liée à la manière qu'ont eu les médias de le traiter. Quel regard porte l'historien que tu es sur la place de l'extrême droite dans les médias ?
Ça, c'est une question extrêmement compliquée, Jean, parce que pendant très longtemps, j'ai tenu la même position que la tienne. C'est-à-dire que j'ai fait 20 ans à France Inter, où je me suis abstenu même de prononcer le nom de la famille Le Pen à l'antenne.
Ah d'accord, carrément.
Voilà. Ouais. Mais je n'étais pas dans les émissions politiques, mais dans les émissions culturelles. Moi, je me suis abstenu de le faire comme une sorte de ligne de conduite, tu vois.
Okay.
Mais aujourd'hui, ce n'est pas facile. Hein, Marine Le Pen fait 42% au second tour. Il y a 90 députés RN à l'Assemblée nationale. Et on sent qu'il y a en effet, dans le pays, une fracture qui est liée autour d'une définition de la nation. Qu'est-ce que c'est qu'être français, hein ? Il y a des bons Français et des mauvais Français, soi-disant. Et ça nous concerne tous. Donc, résultat, je finis par faire 7 heures sur Jean-Marie Le Pen. Tu vois, moi qui avais dit, un peu comme toi,
peut-être,
mais moi qui avais dit comme toi, je ne ferai rien. Ouais. Et je me suis dit, il faut que je m'y colle. Mais bon, avec des historiens. Tu vois, donc
c'est un
peu différent.
Je suis d'accord, il y a une distance
c'est un
critique
peu différent.
Qui est
différente. Parce que je crois que c'est important de rappeler d'où ils viennent. Hein. On entend beaucoup qu'ils ont changé, qu'il y a une rupture, que ce ne sont plus les mêmes. Or, quand on regarde à la fois la traçabilité de l'extrême droite et qui est Jean-Marie Le Pen et ce qu'il propose aujourd'hui, c'est la même ligne, Jean, c'est la même ligne.
Mais c'est d'autant plus intéressant, et je te rejoins, sur le fait que la moyenne d'âge du public qui regarde mes émissions a 24 ans.
Bien
ce sont
sûr.
Des jeunes qui sont nés en 99-2000. Mm-hmm. Qui n'ont pas connu le 21 avril 2002, qui n'ont pas connu Jean-Marie Le Pen en réalité, et qui se sont éveillés à la politique ou qui sont en train de s'éveiller à la politique avec un Rassemblement national qui est là où il est, tu l'as rappelé, et qui est dédiabolisé.
Mm-hmm.
Donc je comprends aussi que beaucoup d'entre eux me regardent en me disant « mais je ne comprends pas pourquoi tu ne les invites pas », etc. Je comprends tout à fait, et ça s'explique beaucoup. C'est une des raisons pour lesquelles j'invite tout le monde aussi à écouter ce podcast sur Jean-Marie Le Pen, qui en plus d'être un cours d'histoire extraordinaire sur l'histoire de la Ve République, est aussi un cours d'histoire sur l'extrême droite.
Oui, parce qu'en plus on ne va pas accabler les médias, mais c'est vrai où tu as raison, c'est que dans les années 80, les médias ont joué un grand rôle dans ce qui nous arrive tous aujourd'hui. Voilà. Et c'est important de le dire, Jean, parce que les médias ont cherché une solution pour traiter Jean-Marie Le Pen, mais ça a déclenché aussi une forme de visibilité de Jean-Marie Le Pen. Et c'est vrai qu'il y a une responsabilité partagée. Voilà.
Comment est-ce que tu fais pour réussir à parler d'histoire et à faire des heures sur des portraits de personnalités sans tomber dans le cours magistral un peu chiant ?
Ça, c'est l'art du récit radiophonique. Et je ne suis pas tout seul parce que je suis bien entouré. Hein, notamment, j'ai Violaine Ballet avec moi, qui est une metteuse en ondes, comme on dit à la radio, alors qu'on dirait metteur en scène au théâtre. Mais à la radio, c'est metteur en ondes, qui ont ce talent-là de savoir aussi créer l'appétit de l'écoute. Et ça passe par du rythme, évidemment. Ça lutte contre l'ennui. Mmh. On remonte beaucoup les interviews, par exemple. Hein, ce que je ne dis pas trop souvent en général, mais... les historiens sont passionnants, mais on s'occupe beaucoup de les rendre encore plus passionnants pour être courtois.
Et donner du rythme, ouais.
Voilà, exactement. Donc c'est Hawkinson rythme, je pense. Vraiment.
Est-ce que tu penses que tu as pu être influé, même sans le vouloir, par toute une génération de vulgarisateurs ? Tu sais, sur YouTube, il y a eu ce phénomène depuis 15 ans maintenant,
où on a des
géants comme Nota Bene, Manon Bril, qui ont inventé une nouvelle manière de parler d'histoire.
Écoute, ce qui m'a vraiment perturbé, c'est que j'ai fait, l'université, j'ai fait une section histoire, et qui était plutôt une manière, en effet, magistrale de raconter l'histoire, ou livresque, etc. Et puis, il y a 15 ans, j'ai vu ces youtubeurs arriver, par exemple, à la fois très sérieux, assez passionnants, et surtout didactiques, expliquant des choses qui paraissaient très simples, mais qui avaient la vertu de tendre la main à tout le monde. Donc, je ne dis pas que je me suis inspiré de ça, mais en tout cas, ça m'a un peu décomplexé, je pense.
Oui.
Je me suis dit, tiens, en fait, ça fonctionne, et considère que tout le monde n'a pas le même niveau d'éducation. Donc, tend la main aux gens qui ont besoin d'apprendre. Voilà. Donc, ils m'ont un peu influencé, je pense, en vérité.
Non, mais c'est intéressant. Comment est-ce que vous travaillez ? Parce que tu le parlais tout à l'heure, on a la joie de découvrir des archives audio-radiophoniques. Vous êtes combien à travailler pour aller chercher ? Ça doit être un travail dingue.
C'est un travail assez titanesque. Bon, on n'est pas si nombreux. On est une petite dizaine. C'est pas mal, mais on n'est pas si nombreux. Mais c'est des gens très efficaces, qui ont une grande expérience de la radio. On travaille avec l'INA, évidemment, pour les archives. Et donc, on a des process. Voilà, on sait où chercher, parce qu'il y a 10, 15 ans d'expérience de la radio pour les uns et pour les autres. Donc, on va assez vite. Mais après, je ne vais pas le cacher, c'est beaucoup, beaucoup d'investissement. C'est-à-dire que si je donnais les heures qu'on passe à faire ces podcasts, ce serait assez étourdissant. Voilà, on y passe nos nuits et nos jours, à vrai dire. Donc, voilà.
Je me doute. C'est aussi des sujets d'actualité qui ressortent de fait dans tes podcasts. Alors, c'est facile, Philippe Pétain avec Éric Zemmour qui en a parlé pendant la présidentielle. Je crois d'ailleurs que ça a été une des raisons pour lesquelles tu as décidé de parler de Philippe Pétain. Parce
Absolument.
Que il est retourné dans notre quotidien Absolument. Du jour au lendemain, quasiment.
Et surtout, faire entendre à des publics jeunes ou moins jeunes que Philippe Pétain aurait sauvé les Juifs français, ça, moi, ça me...
Ça, l'historien ne peut pas
beaucoup.
Accepter ça, je comprends.
voilà, exactement.
Et ça revient aussi sur l'actualité, lorsque tu as fait un épisode sur Jean-Marie Le Pen pendant la guerre d'Algérie, avec cette question qui se pose et qui est brûlante, celle de la torture.
Oui.
Jean-Marie Le Pen a-t-il pratiqué la torture ? Est-il un tortionnaire en Algérie ? Ça a provoqué une mini-polémique, des historiens ont réagi ou...
Oui.
Quel mot tu mettrais sur cet épisode ? Raconte-nous.
Écoute, je pense que s'il y a eu polémique, j'en suis désolé déjà, parce que ce n'était pas du tout l'ambition qu'on avait avec Benjamin Stora et moi-même. À propos de Le Pen en Algérie. Je vais dire deux choses. La première, c'est que aux yeux, au regard des témoignages de combattants algériens qui accusent Jean-Marie Le Pen d'avoir torturé en Algérie, il est probable que Jean-Marie Le Pen ait torturé en Algérie. Voilà.
Au regard de ses propres propos aussi, même s'il n'a pas toujours dit la même chose.
Oui, il a beaucoup changé de position. Il a dit qu'il l'avait fait, puis qu'il ne l'avait plus fait. Bon, si je tiens compte des témoignages, et Stora également, il est probable que... Il y a des traces. Mais... En historien, c'est compliqué de prouver que Jean-Marie Le Pen a torturé, parce qu'on n'a pas de preuves archivistiques. Alors on peut dire, mais quand même, on pourrait être un peu plus courageux que ça, moins prudent peut-être. Mais bon, il y a des règles en histoire, alors ça ne veut pas dire qu'on n'en trouvera pas déjà de preuves. Ça ne veut pas dire qu'on remet en cause le travail journalistique. Il y a des journalistes comme Florence Baugier du Monde qui ont mis en avant ces témoignages, et évidemment qui sont complémentaires au travail des historiens. Et je vais même te dire un truc, Jean, je pense qu'au fond, le citoyen Benjamin Stora et le citoyen que je suis ont peut-être la conviction au fond d'eux-mêmes que Jean-Marie Le Pen a torturé en Algérie. Voilà, et c'est juste une précaution, peut-être trop prudente. Donc on a dit, attention, on a du mal à l'affirmer à 100%.
Le travail que tu fournis aussi dans cet épisode, c'est de dire qu'au-delà des faits, il y a le discours politique produit par Jean-Marie Le Pen lui-même sur le sujet. Donc la question de savoir s'il a commis le crime est un sujet. La question de savoir comment il en a parlé, et tu conclus en disant qu'il est un tortionnaire
en
Algérie.
Oui, bien sûr.
Parce qu'être tortionnaire, ce n'est pas que pratiquer l'acte, c'est aussi... le justifier, je crois.
Exactement.
Et ça, il l'a fait, ça, pour le
coup. Donc, on peut clairement dire qu'il est, en effet, un tortionnaire. Et prendre cette petite précaution, Jean, c'est aussi pouvoir, entre guillemets, s'attaquer au problème qu'est Jean-Marie Le Pen. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on peut aussi avoir une parole qui porte parce qu'on se dit, tiens, là, je peux parler à 100%. Quand il y a une précaution à prendre, je la prends. C'est tout. Ce n'était pas du tout le désir de dédouaner Jean-Marie Le Pen et encore moins de remettre en cause la torture en Algérie. Jamais, évidemment, jamais.
Et tu as travaillé avec Benjamin Stora qui travaille sur les mémoires, notamment de la guerre d'Algérie.
Oui, et qui est un des grands spécialistes de la guerre d'Algérie.
Quand même.
Voilà.
On en parlait un petit peu au début. À qui tu t'adresses avec ces podcasts ? Tu t'adresses à la gauche ? Tu t'adresses aux jeunes ? Tu t'adresses à qui ?
J'espère que je m'adresse à tout le monde. Voilà, parce que voilà, c'est mon éducation, sans doute aussi, c'est mon cursus, c'est mon parcours. Je suis un gamin de la République et je crois que les podcasts, on les conçoit comme ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le casting qu'on fait d'historien, il y a différentes sensibilités. On fait attention de ne pas juger, nous ne sommes pas un tribunal. L'histoire n'est pas un tribunal. L'histoire est là pour raconter ce qui s'est passé. On restitue le passé avec une forme d'honnêteté. Et donc, on essaye au mieux de s'abstenir de dire ce qu'on pense, même si c'est difficile, voilà. Mais on essaye au mieux de le faire. Et donc, voilà, c'est une manière peut-être de refaire du lien. Je dis ça parce qu'on avait un fantasme, un peu, à vrai dire, Jean, au départ. C'est qu'on s'est dit, est-ce que ces podcasts peuvent servir à recréer du lien entre les générations ? C'est un peu prétentieux de dire ça. Mais on s'est aperçu très vite qu'il y avait des gens de mon âge, 48 ans, des gens de l'âge de mes parents, 75 ans, des gens de votre âge ce soir ici, qui écoutaient ce podcast et qu'il arrivait que ces gens parlent entre eux dans les familles. Ça, c'est mon objectif prioritaire.
Qu'un c'est... petit enfant demande à son grand-père.
Exactement. Raconte-moi Pétain, raconte-moi l'Algérie. Ouais. Ou raconte, voilà, et j'espère que ça fonctionne comme ça parce que ça, j'y tiens beaucoup. Ouais. Ça s'appelle faire société. C'est pas du tout utopique ou j'y crois en fait à ça un peu. Donc, si le podcast peut servir un petit peu à ça. Ça me remplit de joie. Voilà.
Pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire un podcast plutôt qu'une émission de radio ? France Inter fait de très bonnes émissions. C'est le choix du format long, c'est une volonté ?
Et je pense qu'il y a à la fois un changement de pratique culturelle. C'est ouais. qu'il y a des heures creuses, c'est-à-dire on fait du jogging, on prend un avion, un train, on fait la cuisine. Et ces heures-là peuvent permettre un grand récit de 6-8 heures. Et par ailleurs, on a tous eu... maintenant à faire à ces grandes séries qu'on regardait sur des plateformes numériques audiovisuelles, je veux dire. Et on a pris ce pli-là, je crois, du grand récit, des grandes traversées, des grandes épopées. Donc on s'est dit, essayons de nous insinuer dans les heures disponibles des auditeurs et des auditrices et profitons de ça pour en faire un grand récit à chaque fois.
D'ailleurs, j'ai entendu dire que tes podcasts allaient être diffusés à l'antenne l'an prochain.
Oui, oui, parce que figure-toi que dans ce désir d'embrasser tout le monde, et ça j'y tiens, c'est qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas accès au numérique. Prenons un truc très concret. Mes parents, 75 ans, ils n'ont pas Internet. Ils ne peuvent pas regarder Backseat. Donc mes parents, ils attendent l'été suivant pour écouter mes podcasts. Et donc, il y a tout un public qu'on ne veut pas exclure. Donc on se dit, on va passer à l'antenne ces podcasts pour les offrir à tout le monde, y compris ceux qui sont dans un désert numérique ou ceux qui n'ont pas, évidemment, accès à Internet.
Ça marche, en tout cas ça cartonne ces podcasts. Mm-hmm. Est-ce que vous avez des projets d'adaptation comme ça a pu se faire à la télé avec Affaires Sensibles par exemple ?
Alors on sait que Léon Blum a été propice à beaucoup de projets, donc c'est assez génial. En fait, on va adapter Léon Blum, la série sur Blum à la télévision en 4 fois 52 minutes en documentaire, donc ça c'est extraordinaire.
Mais c'est une exclue ça en plus.
Oui, je pense qu'on l'a très peu dit, donc voilà.
Et écoute, formidable, on peut l'applaudir quand même. Léon Blum sera adapté.
Voilà, exactement.
Super. Merci pour cette super info, super.
Voilà, ça c'est super. Et puis, dans le podcast de Blum, c'est Charles Berling, l'acteur qui porte la voix donc, de Blum. Et Charles, il dirige un théâtre à Toulon, qui est une scène nationale, Château Ballon Liberté. Et on est en train d'adapter avec lui une pièce de théâtre tirée du podcast, qui est un projet assez génial, parce que c'est un spectacle participatif. C'est-à-dire qu'on ça va durer 10 heures, Jean. Ça dure 10 heures.
Ah ouais scène.
Oui, 10 heures. Mais on intègre tous les publics.
C'est-à-dire
que Charles va jouer Blum. Moi, je fais le narrateur.
Ouais.
Il y a une actrice qui porte la parole des historiens et des historiennes, mais tout le reste est joué par des publics amateurs là où on vient. On va à Montpellier, et bien des comédiens amateurs vont jouer Daladier, Maurras, Salingro, Jean Zay. Tout a été retranscrit. Et on fait un grand barnum de 10 heures. Il y a un grand banquet républicain. Tout le monde dîne ensemble. Tout le public et les acteurs dînent ensemble. Il y a un grand bal populaire. Voilà. Donc, ça va tourner dans les villes de France. Il y aura 10-12 dates. Et donc, soyez les bienvenus. Venez, emparez-vous du spectacle.
Ouais. Voilà. Non, mais carrément, t'as bien raison. Est-ce que tu travailles déjà à d'autres portraits ? Est-ce que tu réfléchis déjà à tes prochaines séries ?
Oui. En fait, on sort une petite série pour l'été début juillet de 4 heures sur Jeanne Dubarry. Voilà.
Okay.
Et on va raconter ce qu'elle est véritablement avec une nouvelle enquête tout à fait nouvelle. Très intrigante.
C'est en lien avec le film à Cannes.
De fait, c'est de en fait, lien, ouais. Mais il se trouve qu'il y a un historien qui est très impressionnant, qui s'appelle Emmanuel de Barresquiel, qui a travaillé depuis 3 ans sur Madame du Barry. Il vient avec une nouvelle biographie où il apprend beaucoup de choses nouvelles et qui font une relecture du destin de Madame du Barry. Donc passionnant. Et puis pour l'automne, une nouvelle exclue pour Jean Massier et Backseat. Début décembre, on sortira une grande série de 10 heures. Où on va raconter 39-45 à travers le destin de 5 résistantes françaises. Une à Londres, une au Caire, 3 en France. Donc on a 39-45 à travers 5 jeunes femmes de 30 ans qui ont pris les armes et, à leur manière, ont résisté aux nazis.
C'est extraordinaire, ça sort en octobre prochain.
Début décembre.
Début décembre voilà. prochain. Mmh. Eh ben, écoute, super, on a hâte d'écouter ça. Mmh. Est-ce qu'un jour tu t'es dit que ça t'intéresserait d'essayer de faire des portraits de personnalités ailleurs dans le monde ? Avec la barrière de la langue qui doit être difficile, je suppose.
T'as tout compris, Jean. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, dans le côté peut-être populaire, ça m'inquiète un peu. Donc, parce que tu ne peux pas faire un Churchill sans un historien anglais. C'est compliqué.
Et sans l'écouter, c'est
et
dur.
Donc, peut-être qu'on réfléchit, pour tout te dire, à des astuces. Peut-être qu'on pourrait faire l'interview, la retranscrire, la faire dire par un Français, un acteur, on ne sait pas trop. On réfléchit. Voilà. Mais c'est vrai que c'est parfois une barrière, la langue, quand tu cherches à brasser les publics.
Et moi, c'est une question que j'ai toujours envie de poser aux historiens ou à ceux qui parlent d'histoire. Dans un siècle, quand des étudiants ou des lycéens feront des exposés sur notre époque, tu penses qu'ils en diront quoi ? Ou que le Philippe Collin demain fera un portrait sur qui ? C'est l'autre manière de poser la question.
Les historiens n'aiment pas la prospective.
Ils
s'occupent que du passé, pas trop du présent et jamais du futur. Écoute, j'espère que parfois, quand tu fais de l'histoire, elle ne se répète jamais, l'histoire. Mais il y a des mimétismes, il y a des schémas qui peuvent à la fois faire penser à d'autres schémas. Donc j'espère que nous ne traversons pas une période qui serait angoissante pour l'avenir. Voilà.
Les années 20 et 30. Dont
par exemple, je ne veux pas trop le dire, ça me pose problème. Mais je vois, tu vois, c'est exactement ce que je...
Parfois, des gens comme moi qui vont un peu vite peuvent s'amuser à faire des parallèles. Voilà. Et c'est vrai que l'historien a raison de rappeler que c'est compliqué.
Par exemple, quand tu traverses les années 20 et les années 30, il y a des mécanismes qui sont là, présents, et qui font penser à ces deux décennies-là. Mais je le répète, l'histoire ne se répète jamais. Néanmoins, nous sommes face à des vrais défis. Mais rien n'est perdu, rien n'est perdu. Il y a une jeunesse, il y a un avenir, il y a de la politique à s'emparer, il y a Baxit, rien n'est perdu. Voilà. Mais c'est vrai que nous traversons une période compliquée, clivante, et un peu angoissante.
Et quelle inspiration tu penses, je reviens sur la question qu'on abordait tout à l'heure, quelle inspiration tu penses que des jeunes qui s'intéressent depuis peu à la politique, qui réfléchissent à s'y engager, ils peuvent tirer de ces personnages historiques? Tu leur dirais quoi? Résister au temps présent ou
Je leur dirais deux choses. La première, c'est d'écouter le podcast sur Léon Blum. Parce que Léon Blum est une forme d'inspiration. Mmh. Qu'on soit de gauche ou de droite, ce n'est pas le problème. Voilà. Léon Blum a un message pour vous. Il vous dit « Ayez du courage, de la résolution et de la fidélité. » Voilà. Et je crois que ça peut offrir un horizon pour une génération qui est en devenir. Voilà. Et écoutez Blum, parce que chez Blum, il y a beaucoup d'outils qui peuvent nous aider à passer ce que nous traversons en ce moment. Voilà.
Est-ce que tu travailles de la même manière sur un personnage aussi récent qu'un personnage du XXe siècle ou sur un Cléopâtre ou un Napoléon?
C'est très différent. Tout simplement, il n'y a pas d'archives, par exemple, pour des choses qui dépassent le XXe siècle, qui précèdent le XXe siècle, pas d'archives. Et puis après, le rapport à l'histoire est toujours un peu différent. Hein. C'est-à-dire que pour Cléopâtre, il y a très, très peu d'archives, par exemple. Hein. Très, très peu. De sa main, il n'y a quasiment rien. Des portraits, il y en a très peu.
Il y a même des débats sur savoir à quoi elle ressemblait.
Exactement.
En ce moment,
exactement. Donc c'est totalement différent. Mais c'est passionnant, c'est deux registres très différents. Voilà.
Eh bien écoute, merci beaucoup Philippe
c'est
Collin.
Moi, c'est moi qui vous remercie, qui te remercie.
Merci Philippe
plaisir.
Collin d'être venu dans le Bifort de Baxit. C'est beaucoup. À retrouver donc sur vos plateformes de podcasts préférées, n'hésitez pas. C'est les podcasts de France Inter, de Philippe Collin, Simone de Beauvoir qui vient de sortir, écoutez-le. Chers amis, on va marquer un générique tout simplement et c'est parti pour Baxit, à tout de suite.